Mario Castelo de Natal. Je réfléchis totalement ce que tu
vois. Et c'est une compagnie au personnage, rencontre les deux, par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs, c'est votre espace d'échange et de partage sur les grandes questions d'actualité et les préoccupations de tous les jours. Nous sommes mercredi 19 octobre 2010 et nous nous penchons avec vous sur la lutte contre les violences sexuelles et autres violences, formes de violences faites à la femme. Ces violences ont fait l'objet de la troisième édition de la Marche mondiale des femmes qui a eu lieu du 13 au 18 octobre dernier à Bukavu dans la province du Sud Kivu. Des milliers de femmes venues du monde entier se sont retrouvées dans cette province choisie pour les atrocités que les femmes y ont connues avec les différentes guerres qui ont endeuillé la RDC, ainsi que la persistance des violences sexuelles à l'est de la République. Le but a consisté à exprimer la solidarité internationale vis-à-vis des violences vécues par les femmes à travers le monde, particulièrement celles de la RDC. Les participants ont formulé des recommandations et élaboré un mémorandum adressé aux autorités de la RDC en vue d'obtenir une forte implication à lutter contre les violences faites à la femme sous toutes leurs formes. Selon l'ONG V-Day, au moins une dizaine de viols sont enregistrés par jour à l'hôpital général de Kanzi au Sud Kivu à l'est de la RDC. Sur la liste des auteurs figurent des hommes armés ainsi que des civils, ce qui a conduit les participantes à la marche mondiale de réclamer la démilitarisation des régions de l'est de la RDC. Comment réagissez-vous face à cette mobilisation mondiale? Quelle perspective pour poursuivre la lutte contre les violences faites à la femme? Nous avons au téléphone dans cette émission Madame Élise Mouimouzi, elle est de la société civile et membre du panel des organisations et des organisatrices de la marche. Marie-Chantal Lumba et Cynthia Bachizi sont à la réalisation de cette émission, supervisée par Nicole Ngaka, et la mise en œuvre est assurée par Dédoni Nyangasa. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par internet en écrivant à ca@radiocapi.net.
Bonjour à tous. Et si vous avez besoin d'intervenir au téléphone pour donner votre point de vue et surtout votre contribution à ce qu'il faut faire pour assurer la poursuite de la lutte contre les violences sexuelles, vous pouvez nous appeler au 081 890 63 15. Et je le disais à l'introduction, pendant 4 jours, les femmes membres de plusieurs associations venues des 5 continents ont fait entendre leur voix sur toutes les formes de violences que subissent les femmes à travers le monde en général et en RDC en particulier. Madame Élise Mouimouzi, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour monsieur.
Nous vous prenons, je pense bien que vous êtes à Bukavu au Sud-Kivu, je pense.
Oui, je suis encore à Bukavu au Sud-Kivu pour organiser les retours des membres qui sont venus et des délégations provinciales comme les délégations internationales qui rentrent à Kinshasa pour prendre leur vol. Et nous sommes encore là pour parler des restitutions d'organisation sur la suite et le suivi de la marche mondiale des femmes.
Voilà. Et madame, d'une manière un peu globale, la marche a été organisée, elle a eu lieu, l'objectif, comme on l'a dit à l'inclusion de l'émission, on veut plus ouvrir l'œil sur les violences sexuelles. Quand vous regardez dans l'ensemble l'implication des uns et des autres, vous pensez vraiment que la marche avait raison d'avoir lieu à Bukavu, dans la province du Sud Kivu?
Oui, le choix de la province du Sud Kivu n'était pas fait au hasard. Du fait qu'elle représentait, symbolisait les lieux où beaucoup de massacres ont eu lieu, c'est vrai qu'il y en a eu partout dans les pays, mais ici c'était les atrocités, où Mwenga a été le point culminant où on a enterré les femmes vivantes.
Mmh.
Et là-dedans, il y avait un homme, puisque les 14 femmes vivantes enterrées, il y avait aussi un homme qu'on a enterré, d'autres faisaient un total de 15 personnes. Ça, c'est une atrocité qu'on n'a jamais vue dans le monde. Que ce soit les guerres, que ce soit les expériences partagées avec les femmes de Palestine ou les femmes d'Haïti, dans ce pays, il y a eu beaucoup de violences, mais on n'a jamais enterré sur l'humanité des personnes vivantes.
Et à votre avis, madame, en tant que membre du comité d'organisation, quel sera l'impact de cette marche sur le travail, sur les plaidoyers, sur la lutte contre les violences sexuelles?
C'était une occasion unique que nous avons pu trouver à ce moment-ci, où l'humanité entière, au moment où sortent les mappings, les rapports des Nations Unies sur la problématique des viols et des violences qui se passent sur les sols congolais, les femmes du monde entier s'organisent et ça tombe à point nommé, donc ils arrivent au moment où ce rapport est sorti. Et voilà que toute l'humanité, même les femmes, sont consternées à la situation qui se passe à l'est de la République. Ils réclament la démilitarisation, la paix et la fin de la violence. De ce fait, la solution ne peut être trouvée que dans une situation globale de sécurité globale sur la RDC et dans une affirmation de l'autorité de l'État sur l'ensemble du pays.
Et quand on regarde la situation à RDC, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis dans cette direction de parvenir à mettre fin complètement toutes ces atrocités que les femmes connaissent, que ce soit à l'Est, que ce soit dans d'autres provinces de la RDC? Quand vous regardez l'engagement politique, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis pour y arriver quand même, à mettre fin à ces atrocités que les femmes connaissent?
Pour d'abord mettre fin à ces atrocités dont les femmes sont victimes, il est important que, c'est vrai qu'il est de la responsabilité des gouvernements congolais de chercher à stabiliser et à rechercher la paix sur l'ensemble du pays, mais il faut aussi se rappeler du moment où, en 1994, les autorités congolaises de l'époque, dont le gouvernement de Mobutu, avaient eu des pressions par les HCR d'ouvrir les frontières pour qu'ils entrent dans les pays des réfugiés armés, donc des réfugiés Hutu, qui quittaient leur pays avec, à la main, enfants, femmes, véhicules, banques, monnaie de banque, oiseaux, plus les armes à la main qui rentraient dans le pays, donc les armées ils sont venus s'installer sur le territoire congolais dans les réfugiés. Et c'est à ce moment-là que le malheur des femmes ont commencé, parce que dans notre pays, jamais les gens n'ont jamais été aussi dans des situations aussi atroces que maintenant. Et jamais dans les pays où on faisait des viols, c'était vraiment une affaire des délinquants, des marginaux, des personnes qui sont vraiment en dehors de la société qui pouvaient violer, mais ils étaient aussi rares. Et ils étaient aussi maltraités, même pendus, parce que les viols, c'était quelque chose d'inacceptable sur la culture, dans la culture congolaise. Et aujourd'hui, on en parle comme c'est quelque chose qui est tout à fait normal, qui passe, et peut-être que les viols, ils voient. Ces viols voient les pièces de ressources qui se font en dessous de ces viols. Et ces viols ça apparaissent maintenant comme étant une guerre dans une autre guerre qui ne dit pas son nom. Mais si tu regardes dans les populations congolaises, même dans les pays voisins, quels sont les pays qui produisent les armes, d'où viennent les armes? Nous, nous nous disons absolument qu'il faut que ceci stoppe. Et quand ça va stopper, il faut que la communauté internationale se mette aussi à table pour pouvoir chercher la paix à RDC, parce que pour qu'on en finisse avec les viols, ce n'est pas une affaire seulement du gouvernement congolais, c'est une affaire d'une communauté internationale qui doit se faire et qui crée une sorte d'état bandit dans la région et dans lesquels les femmes sont embrouillées. Alors, les femmes ne peuvent pas être victimes d'un complot qui ne connaît pas son nom. Voilà. Alors, dans ce cas, ils ne sont pas vraiment celui de l'État congolais. Nous, société civile, vous nous avez vu marcher, peut-être à côté du ministre, avec la première dame. Nous sommes en solidarité avec notre gouvernement pour que l'État solide et réel et une paix durable soit retrouvée à RDC.
Voilà.
C'est quand on trouvera une paix durable qu'on aura vraiment la paix pour les femmes, et qu'on aura la paix pour tout le monde, et qu'on pourra développer le pays et reconstruire le pays.
Voilà.
On ne peut pas positionner une armée. L'armée, c'est un corps, un cœur. On doit avoir une armée nationale patriote, solide, dynamique, capable de défendre la nation, de défendre la patrie, capable de défendre le Congolais sur tous les états de la République.
Voilà. Oui, madame, on vous garde en ligne, hein, parce que nous allons finir ensemble avec vous. Nous allons aussi écouter les auditeurs et les auditrices hein, qui sont concernés par ce débat, qui vont aussi donner leur point de vue et surtout ce qu'ils pensent qu'on puisse faire concrètement pour avancer dans la lutte contre toutes les formes de violence que subissent les femmes à travers le pays. On va vous redonner la parole, le temps aussi qu'on écoute Georges qui est à Kisangani et Amis qui est à Kindu.
Parole aux auditeurs.
Georges, bonjour, vous êtes à Kisangani en province orientale. Bonjour Georges.
Bonjour monsieur l'animateur.
Voilà, nous parlons de la marche mondiale qui a eu lieu dans la province du Sud Kivu. Nous parlons de la lutte contre toutes les formes de violence et là, que subissent les femmes, que subissent les femmes plutôt en RDC. Vous regardez ce qui s'est fait. Comment vous réagissez face à cette mobilisation mondiale sur le sol congolais en ce qui concerne la lutte contre les violences? Quelle est votre réaction aujourd'hui?
Avant de vous parler de mes réactions, j'aimerais d'abord remercier l'invité. Sa présence est trop nécessaire et il est grand de courage d'avoir se présenté dans cette émission. Premièrement, Et je voulais aussi féliciter la journée qui vient de se passer. C'était une grande fête. Je suis vu à la télé comme à la radio. Je comptais mieux encourager les femmes congolaises et femmes du monde qui ne se limitent pas seulement là-bas, qui puissent avancer de loin et qui puissent s'intégrer totalement dans la vie de la société. Vous voyez, quand il arrive aujourd'hui que la violence sexuelle s'est pu s'épanouir dans tous les milieux et puis d'une manière grandiose, c'est parce que la sécurité ne met pas ses histoires à sa main. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ceci. Moi, j'aimerais que le gouvernement puisse mettre toute une brigade de gens spécialisés, des militaires ou des gens de sécurité spécialisés en matière de cette défaut. Car vous trouverez même cette histoire où la violence est faite par des militaires, par des civils, par des brigands. Alors, lorsqu'un militaire fait des histoires pareilles, qui va les condamner ou bien qui va les mettre dans la rue? C'est fort grave. Là, il fallait qu'on mette un service bien structuré à ce qui concerne ces défauts. Et là, nous allons limiter un peu les violences par-ci par-là. Deuxièmement, je voulais que les femmes congolaises puissent se prendre parfois dans la charge. Il arrive parfois que les femmes se disent non, les hommes qui puissent nous aider pour nous faire élever au même rang que lui. Bon, le monde disait que le monde a dit c'est du combat. Dès que la femme et l'homme sont là dans le monde, il n'a qu'à se débrouiller chacun pour se faire relever.
Georges, si vous pouvez peut-être vous arrêter là pour aider à comprendre votre souci. Bon, on a compris, le premier souci, c'est qu'il faudrait peut-être un service spécialisé qui doit s'occuper en principe de la lutte contre les violences sexuelles, c'est souvent votre proposition. Mais quand vous parlez de la prise en charge, votre souci ici, c'est qu'il faudrait que les femmes n'attendent pas que les hommes puissent leur donner cette liberté, mais que les femmes s'engagent, qu'elles soient actives à revendiquer dans la lutte contre les violences sexuelles. C'est ça votre souci?
Effectivement. Ils doivent tout faire, ils doivent s'engager totalement pour lutter aussi à cela.
Voilà, on vous a compris.
Pour la dame, en étant une grande dame dans la ville, dans le pays, il n'a qu'à faire initier aussi ses amis, afin qu'ils puissent développer leur pays, qu'ils puissent lutter fortement pour ses habits.
Voilà. Merci, Georges. Vous êtes à Kisangani. Bien à vous, Madame Élise Mouimouzi. Vous avez suivi notre premier auditeur. Il pense qu'il faudrait que l'État crée un service spécialisé dans la lutte contre les violences sexuelles. Mais bon, en fait, c'est le message que beaucoup de gens ont toujours donné sur les antennes chaque fois qu'on en parle. Ils disent toujours que les femmes doivent se réveiller pour travailler et revendiquer davantage. Mais on a vu. La RDC, il y a déjà là une loi spécifique pour la répression de toutes les violences et les contre la femme, les violences sexuelles aussi. Il y a une loi spécifique déjà promulguée, la loi qui est déjà là. Mais malheureusement, est-ce que vous vous rendez compte que cette loi elle est assez connue dans les milieux? Est-ce qu'elle est vraiment à la portée des cours et tribunaux dans le sens que les cours et tribunaux se réfèrent à cette loi en ce qui concerne la répression de violences? Parce que la plupart des cas, les gens se plaignent que les auteurs des viols, ils sont arrêtés, demain on le voit libérés, les gens ne savent pas ce qui se passe, ce qui peut aussi décourager les victimes à dénoncer. Est-ce que vous vous rendez compte que cette loi a déjà de l'impact sur le terrain, vous qui êtes engagé dans la société civile?
D'abord, c'est déjà beaucoup connu une loi. Et ça définit déjà le cadre juridique dans lequel les violences peuvent être traitées. Ça, c'est déjà une avancée, et si la loi n'est pas encore assez divulguée ou diffusée, je pense qu'il appartient donc à la société civile et au gouvernement ensemble pour qu'on divulgue cette loi, afin que tout le monde en prenne compte. Mais il faut aussi l'appliquer. Et du coup, les tribunaux, ici, on a réclamé un tribunal spécial pour le Congo, pour que les auteurs de tout ce qui nous soit jugé. Et lorsqu'on va attaquer cette problématique, maintenant, vous allez voir que les jeunes vont carrément diminuer. Mais ça peut diminuer que, dans une situation où notre État devient très fort. Et l'État doit être très fort, doit être présent. Mais alors, si je peux me faire comprendre, essayez une fois d'imaginer que vous mettez des éléments étrangers dans une armée française ou belge. Et je crois que toute la population va se soulever pour dire non. Et alors, l'armée, comme je l'ai dit au départ, c'est un corps et un cœur. On ne peut pas imposer à l'armée congolaise, aux autorités de la RDC, de se permettre de multiplier, soustraire, additionner, ajouter des éléments dans l'armée et de mixer. Donc une armée n'est pas quelque chose qu'on mixe. Une armée, c'est, elle est faite de patriotes. Des patriotes qui sont prêts à mourir pour leur patrie.
Mm-hmm.
Une armée ne peut pas être faite de traîtres. Et c'est à ce moment-là qu'il faut d'abord accepter que nous devons vraiment avoir une armée nationale et républicaine.
Madame,
c'est la première idée principale qu'il faut remettre sur le pays.
Voilà,
c'est pas ce seul qui est dans un état qui est fort. Et nous, nous pensons, société civile, qu'il est grand temps qu'on appuie notre gouvernement, qu'on fasse tout ce qui est de notre possible pour que ce lobby passe au niveau international et qu'on laisse l'effet de pression à cause des ressources sur le pays.
Voilà.
Les ressources naturelles qu'on veut exploiter pour avoir un État faible, un État capable qu'on puisse contrôler, qu'on puisse gérer.
Voilà, madame, avant de donner...
Et notre État pas dans cette situation-là.
Avant de donner la parole à Amici, vous avez évoqué le cas d'un tribunal spécial, parce que le problème se pose dans la lutte contre le viol, le violence sexuelle, qui a aussi parmi les auteurs, il y a les groupes armés étrangers qui, je ne sais pas s'il y a jusqu'à ces niveaux dans la lutte, ils peuvent être jugés par les tribunaux congolais qui font déjà un effort pour les militaires congolais et les autres auteurs, que ce soit de la police, que ce soit de l'armée régulière, que ce soit des civils et tout autre auteur. Mais et là, est-ce qu'au niveau de la société civile, au niveau même de la marche, vous avez formulé des recommandations à la gloire de la communauté internationale pour qu'on parvienne à avoir ces tribunaux? Comme ça, on pourra avoir les auteurs des viols qui ne sont pas congolais, qui sont des groupes étrangers qui sont actifs, je suis le seul congolais, à être jugé pour tous ces cas et combattre cette impunité. Est-ce que vous avez pensé à ce plaidoyer au niveau de la marche mondiale et du forum en général?
Oui, je pense que ça a été même la première recommandation, qu'on puisse retirer les armées qui circulent dans le pays et qui ne sont pas des armées nationales. Et à ce moment-là, nous aurons notre propre armée qui va gérer la situation sur le pays comme c'était dans le temps. Donc, la situation est tellement floue, comme vous l'avez dit, hein, qu'on ne sait pas qui fait quoi, qu'est-ce qui se passe. Mais parce que nous devons assumer l'autorité de l'État d'abord sur l'ensemble du pays. Et ça ne peut se faire qu'à travers d'abord cette institution qu'on appelle l'armée.
Mmh.
Je pense que vraiment, si tu es congolais, tu comprends la douleur que nous avons. Et à ce moment-là, si notre police nationale, notre armée nationale se débarrasse de l'ensemble des personnes qui veulent faire du banditisme sur la région, nous allons pouvoir contrôler ce qui se passe à l'intérieur.
Mmh.
Et personne et aucun État ne peut accepter qu'on joue avec son armée comme on le fait dans notre pays. Donc, dans ce cas-là, il faudrait que la paix reviendrait d'abord au gouvernement congolais. Mais le gouvernement congolais aussi n'est menacé par des pressions externes qui n'ont pas de nom. Et à ce moment-là, la communauté internationale, elle est invitée à assurer les milliers.
Voilà.
Parce que nous, nous n'avons pas invité, on a fait des pressions sur le président Mobutu pour qu'il ouvre les frontières. Moi, j'étais déjà grande. Qu'il ouvre les frontières afin que les Hutus rentrent dans le pays. Mais, entre-temps, on ne les a pas désarmés sur le sol congolais. Et toute la situation qui se passe, personne n'est dit, personne n'est dit bon, et ils pensent que le gouvernement congolais est incapable. Mais le gouvernement congolais n'a pas invité l'armée étrangère de rentrer dans son pays.
Voilà, oui, merci madame.
On ne peut pas endosser ça à un nouveau gouvernement qui arrive. Nous avons suivi quand on faisait des pressions sur le gouvernement Mobutu, parce qu'on voulait en finir avec le régime Mobutu. Maintenant, ce régime qui est en place, il a été élu démocratiquement. Il ne faut pas qu'il nous donne le dégoût de la démocratie.
Voilà. Oui, merci madame, on vous garde en ligne. Il y a aussi madame Solange qui nous appelle de Bukavu, qui va donner son point de vue tout juste après. Et les autres auditeurs qui voudraient bien donner leur point de vue, appelez-nous au 081 890 6315.
Parole aux auditeurs.
Madame Solange, vous êtes à Bukavu, au sud qui vous bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes de la société civile, vous avez vu, vous avez assisté, je crois bien, et participé à la marche qui vient d'avoir lieu à Bukavu, je crois.
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai vu et j'ai assisté, mais je n'ai pas participé directement, c'est-à-dire dans le comité de coordination.
Voilà.
Mais j'ai participé comme soutien.
Voilà. Et quand même, le français a été fait, le message a été lancé. Vous êtes dans la région qui est concernée par la multiplicité de tous ces cas de viol. Nous l'avons dit d'ailleurs à l'introduction de l'émission, selon le rapport de l'ONG Videi, on a au moins une dizaine de cas de viol qui sont enregistrés à l'hôpital général de Panzi, qui est une structure qui prend en charge les victimes de viol violences sexuelles. Et vous, en tant qu'actrice sur terrain, au-delà de ce qui a été déjà fait en RDC, au-delà de toutes les recommandations du forum qui vient d'avoir lieu à Bukavu, quels sont les efforts? Qu'est-ce qu'il faut faire encore pour maintenir le cap et la pression et qu'on arrive enfin à mettre fin à ces atrocités que subissent les femmes, Madame Solange?
Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je vais commencer par relever le point fort de cette marche, parce que je ne peux pas intervenir sans relever les points forts et les points faibles de cette marche pour que vous puissiez comprendre ce que nous pouvons faire dans l'avenir. Comme point fort, c'est que les femmes du Sud-Kivu ont pu traîner toutes les femmes du monde entier et focaliser leur attention au Sud-Kivu, mais aussi comme point fort, c'est le plaidoyer qu'ont pu faire les femmes. Hein, ils ont fait passer un plaidoyer, et ce plaidoyer, je crois que ce plaidoyer aura d'impact sur toute la population de la République démocratique du Congo, et surtout celle de du Sud-Kivu.
Mm-hmm.
Mais comme point négatif, la visibilité politique a pris le devant, le dessus, mais aussi, surtout dans les panels. Mais aussi, il y a une impréparation, c'est-à-dire, en parlant de l'impréparation, je parle directement les femmes de la base, ces femmes qui ont été touchées par des atrocités, qui devaient bénéficier de ce réconfort, n'ont pas pu participer, même aux préparatifs. Et là, je parle d'une impréparation.
Mmh.
Mais pour conclure, je dirais que pour l'avenir, moi, je crois que tout ce que nous avons fait comme plaidoyer, tout ce que nous avons fait comme démarche doit bénéficier à cette base. Parce que ce ne sont pas des leaders, que ce soit des femmes leaders politiques, que ce soit des femmes leaders administratives, ni des femmes leaders de la société civile, que je suis aussi. Ce n'est pas à nous de faire des actions pour nous, mais c'est pour cette population. C'est-à-dire que nous devons voir quelle politique mettre en place pour que cette base soit touchée et qu'il y ait un impact visible et durable.
Mmh,
voilà. C'est ça que je pourrais dire.
Bon, voilà, merci madame. D'ailleurs, en fait, toutes les organisations ont toujours eu de peu fort, de faire le peut-être qui est normal. Je crois peut-être que s'il est demandé aujourd'hui aux organisateurs de penser à une nouvelle marche, ils pourront se baser sur le plan seul pour améliorer. Mais déjà, ce qui est fait a été fait. D'ailleurs, nous rappelons nos auditeurs que c'est la troisième marche mondiale, parce qu'il y en a déjà eu une en 2000, l'autre en 2005. Les femmes ont revendiqué pour la pauvreté et ils ont élargi cela aussi sur les violences. Je pense que 5 ans après, il y aura encore une autre marche. Mais dis-moi, merci Madame Solange, parce que vous avez demandé que quand on organise, qu'on pense plus à ce que les actions, les résultats reviennent à la base. Merci de votre intervention, de Bukavu au Sud-Kivu. Nous restons dans le secteur à ouvrir à cette Tony qui est en ligne. Tony, bonjour.
Oui, bonjour, Radio Kati.
Voilà, Tony, nous parlons de ce qu'il faut faire pour consolider les acquis de cette marche et surtout de garder un élan à combattre et à mettre fin aux violences que subissent les femmes à travers la RDC et dans la région de l'Est en particulier. Tony, on vous écoute. Quelles sont vos propositions?
Et là, je pense que réagir à ce qui concerne les solutions de la violence, ça, c'est notre débat. Mais moi, je voudrais revenir à la marche. La marche, moi, j'ai un avis tout à fait contraire. Je suis contre les cérémonies comme ça. Je pense que notre gouvernement, notre pays, c'est un pays qui a beaucoup de difficultés, qui est en difficulté. Il n'est pas très raisonnable de penser à organiser des actions des actions, des mixes, il faut dépenser beaucoup d'argent. Nous, nous sommes dans un pays post-conflit qui a besoin surtout à consolider les accès sur la misère de la population, au lieu de passer souvent à des actions vantages.
Voilà. Tony, vous êtes à Ouvira. Tony, je pense que vous êtes à Ouvira. C'est dans la région où nous notons une augmentation des cas de viols, de violences sexuelles. Mais je ne crois pas qu'une marche, elle n'est pas la première. J'ai dit que c'est la troisième édition, si vous n'êtes pas informé. Les femmes ont marché. D'ailleurs, si vous vous rappellerez, la deuxième édition, la marche est partie le 8 mars de Sao Paulo au Brésil pour se clôturer le 17 octobre à Ouagadougou, au Burkina Burkina Faso, c'est en 2005, c'est que les femmes s'étaient engagées pour faire entendre leur voix. Vous êtes dans la région où il y a même d'ailleurs beaucoup de cas de violences sexuelles. Je ne crois pas que ce soit un luxe, l'organisation d'une marche pour revendiquer. Mais eu égard à cela, parce que ces femmes qui sont concernées par les viols, elles sont avec vous dans le milieu. On doit quand même parvenir à mettre fin à cela. Et qu'est-ce que vous proposez pour mettre fin à cela? Parce que nous n'allons pas quand même faire le débat autour de la marche. Il a déjà eu lieu, les gens ont déjà revendiqué, ils ont déjà dit ce qu'il faut faire. Mais maintenant, quelle est votre contribution, vous, en tant qu'habitant du Sud, qui vous, pour qu'on parvienne à mettre fin à toutes les violences que subissent les femmes avec qui vous vivez dans le milieu où vous êtes à Ouvira?
Oui. Franchement, lutter contre les violences sexuelles, ce n'est pas organiser des luttes, des cérémonies comme ça, avec éviter des femmes de tous les continents. Moi, je pense que lutter contre les violences sexuelles, c'est attaquer le mal à la racine. Qu'est-ce qui viole les femmes? Si, par exemple, aussi si vous, il y a des groupes armés, il y a des FDR, il y a même des FRDC qui sont souvent activés, qui sont souvent portés des doigts dans ces actions-là. Il faut attaquer les mal à la racine. Réfléchir comment on peut éradiquer le phénomène FDR. Réfléchir comment on peut éradiquer les phénomènes groupes armés. Mais moi, franchement, je suis contre des cérémonies, des
Augustin, Tony,
ça n'a pas d'impact à la population.
Tony, nous ne faisons pas le débat pour savoir qui est pour ou contre la marche, mais quand même, nous avons suivi votre souci. Votre souci, c'est d'attaquer le mal par la racine. Votre souci, c'est de mettre fin au phénomène FDLR, au phénomène groupes armés. Si on met fin à cela, c'est ce que Mme Élise est en train de dire. On va complètement aussi barrer la route à ceux qui sont en train de violer. Merci, Tony. Vous êtes à Ouvira. Merci d'avoir donné votre point de vue dans cette émission. En Mandaka, c'est Sylvain qui est en ligne. Sylvain, bonjour.
Okay, bonjour, M. Jean. Je veux m'accorder pour la parole. Je suis un membre de la province de l'Équateur. Ce que moi je vois ici, ce qui se passe ici, c'est très grave pour la problème de la violence sexuelle. Si vous parlez même du commandement juif, vous pouvez même les autorités qui sont là vous demander qu'est-ce qui se passe ici, même avec ça, toujours de la problème de la violence. De la violence. Oui, dans l'histoire. Je vous écoute.
Sylvain, on a des problèmes. Vous êtes apparemment au marché, vous êtes à l'hôpital, on ne saura pas. On a difficile à vous entendre. Il y a tellement beaucoup de bruit, c'est normal, c'est le direct. On a tellement beaucoup de bruit sur vous. Quelle est votre intervention? Vous dites quoi ou juste qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en place là?
Ah, pas de problème. Écoute, c'est un peu mangé.
Voilà, on pourra vous récupérer après Sylvain, on pourra vous récupérer après parce que là apparemment on ne parvient pas à s'entendre, il a des idées mais malheureusement il est tellement dans un brouhaha terrible qu'on ne sait pas entendre ce que Sylvain dit, mais du moins son souci, il dit qu'il est déçu parce que cela arrive partout, dans les hôpitaux, il y a beaucoup de cas qu'on reçoit comme ça, de femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Cela va nous permettre de transiter pour donner aussi la parole à notre invité tout juste après quelques secondes.
Le débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Et vous écoutez Parole aux auditeurs qui, ce mardi, se penche sur la lutte contre les violences sexuelles en se basant, bien sûr, sur la troisième édition de la Marche mondiale des femmes qui a eu lieu du 13 au 18 octobre dernier à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Des milliers de femmes venues du monde entier se sont retrouvées dans cette province et choisies pour les atrocités que les femmes ont connues avec les différentes guerres qui ont endeuillé la RDC, ainsi que la persistance des violences sexuelles à l'est de la RDC. Deux questions pour cette émission. Comment réagissez-vous face à cette mobilisation mondiale? mondiale et surtout, quelle perspective pour poursuivre la lutte contre les violences faites à la femme. Soyez nombreux à vouloir réagir, bien sûr, comme les uns et les autres. Madame Janine, qui suit les antennes. Et nous avons aussi Madame Élise Mouimouzi, elle est du comité d'organisation de cette marche. Ensemble, nous cheminons pour dégager les pistes et les solutions. Et c'est ce qu'il faut faire pour mettre fin à cela. Madame Élise, nous allons vous donner la parole juste après. Nous allons prendre Janine qui nous appelle des Goma. Et on regarde dans la société, dans l'état des luttes contre l'impunité, parce que vous avez évoqué les problèmes de groupes armés étrangers qui sont en train de causer ces viols massifs, n'est-ce pas, à l'est de la RDC, mais il y a aussi d'autres cas de viols, plusieurs fois, qui sont enregistrés à l'ouest et au centre, dans les provinces où il n'y a pas la guerre. Ce sont des civils qui sont à la base de tous ces cas des viols, et des fois ce sont les proches parents des victimes. Mais le plus grand problème ici, c'est qu'on a tendance à plus à recourir à l'arrangement à l'amiable. Mais au niveau du forum, qu'est-ce que vous pensez envisager dans ces cas-là? Parce qu'il faut quand même qu'à un certain moment, que ce soit les OPJ, que ce soit les magistrats qui poussent parce qu'il y a la loi, plutôt que d'encourager les familles qui recourent à l'arrangement à l'amiable, qui permettent plus vite au bourreau de se retrouver en liberté, de s'enquiller. Et ça donne l'impression que rien n'est fait. Et les victimes, encore, comme je l'ai dit au début de l'émission, risquent de se renfermer sur elles-mêmes plutôt que de dénoncer les cas de viol qu'ils subissent. Madame Élise, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne. Merci beaucoup. Je pense, tel que je viens d'écouter les réponses à gauche à droite, vous voyez bien qu'il y a des perspectives à venir. Nous devons créer une conscience nationale.
Mm-hmm.
Une conscience nationale qui trouve qu'effectivement, le viol, ce n'est pas un acte innocent. Le viol, c'est un acte criminel. Et les acteurs des viols doivent être jugés au même titre que tous les autres criminels. C'est vrai que les tribunaux, les cours des tribunaux, les magistrats doivent traiter ces dossiers. Et c'est pourquoi je vous ai dit qu'il était impossible, que l'ancien civil s'en va tout seul dans la démarche. Il est essentiel aussi que le gouvernement prenne les choses au sérieux et voit dans quelle mesure nous pouvons lutter ensemble pour mettre fin à cela. Quand il y a ce plaidoyer international qui se fait sur le pays, il est nécessaire aussi que nous, en tant que fondation de la société, nous puissions sensibiliser, nous puissions éduquer pour que les gens ne prennent pas les choses à la légère. Parce que dans la province orientale, au Palais spécialement, où les gens essaient de faire des arrangements à l'amiable en donnant une chèvre, ou qu'on a violé les catégories, ou en donnant un peu d'argent, 3000 francs, ou 4000, 7000, ça dépend de quel viol, de quel âge. Mais je pense qu'on est en train vraiment de réutiliser tout l'ensemble de luttes, toutes notre lutte que nous menons par rapport à cette question.
Mmh.
Mais la question de viol, lorsqu'on viole dans les temps, si quelqu'un viole sa femme, ça veut dire que cette personne cherche à se réduire. Lorsqu'on viole les femmes congolaises, on cherche à réduire la nation congolaise. C'est toute la nation congolaise qui est frappée dans les pleins cœurs parce qu'on a violé les femmes congolaises. Et les viols systématiques qui sont faits, les violations systématiques qui sont faites sur le pays, ce sont des viols qui cherchent donc à anéantir. Lorsqu'on viole, on détruit les organes génitaux des femmes, qui ne peuvent plus se reproduire. Donc ces viols ont un motif lointain qui consiste donc à désintégrer tout un État, à désintégrer l'âme d'un État, à désintégrer les femmes et à les violer au même titre que toutes les autres ressources et richesses du pays, comme l'or, les coltans, etc. Donc, dans ce débat, dans cette problématique, nous ne sommes pas les seuls qui puissent ramener vraiment la paix à un dossier. Donc, nous devons nous mettre ensemble.
Merci.
Donc, société civile, gouvernement, communauté internationale, pour qu'on ait la paix et la sécurité globale sur le pays.
Voilà.
Parce que ça, c'est dit jamais vu et nous disons non. Ou plus jamais ça.
Mmh.
Je suis de la coordination nationale de la marche mondiale des femmes. Je l'ai fait aussi en 2000, en année 2000, qui était à Washington, à New York, avec les autres femmes, demander aux représentants du FMI de la Banque mondiale de changer les politiques de la pauvreté dans le monde. Et ils sont, parce que toutes les politiques qu'ils prenaient sur l'ajustement structurel, ça coupait dans le secteur où intervenaient les femmes, telles que l'éducation et la santé.
Mmh.
Et dans lesquelles les femmes se retrouvaient sans pour autant mettre encore les enfants qui sont à l'école, puisque dans les familles deviennent pauvres, ils choisissent entre un garçon et une fille, qui va étudier selon la culture, on donne d'abord la chance au garçon, et demain on va voir pour la fille. Et dans l'entretien, les choses ont continué comme ça, et finalement on a vu que le cycle de violence
vis-à-vis de l'enfant cible, par rapport à l'éducation, par rapport à la santé, ça crée des problèmes dans le pays du tiers-monde. Et aujourd'hui, la Banque mondiale est en train de changer ses politiques. Mais les gens ne le voient pas comme les garçons de l'ouvrir qui a dit non, il ne faut pas faire une marche pour ça. La marche a un caractère tout à fait politique. Mm-hmm. Il était tout à fait normal qu'ils disent qu'il y a une récupération politique. Mais ce n'est pas tout le monde qui est au même niveau de compréhension.
Voilà, merci,
et vous comprenez
merci.
Que nous avons encore un travail à faire,
pour
d'éducation et de sensibilisation pour que voilà. les Congolais s'élèvent, mm-hmm. afin d'avoir leur pays, leur patrie,
voilà,
afin de défendre aussi dans n'importe quel niveau ils sont, au village, ici au niveau local, au niveau national, au niveau international, qu'on amène ces combats. Et nous, nous étions fiers même d'avoir la première dame, elle a plusieurs fois avant nous, mm-hmm. elle est venue visiter les femmes violées. Elle est venue à l'hôpital des femmes violées. Mmh. Elle est venue comme femme faire la même lutte. Elle n'était voilà. pas seule, mais était accompagnée par la femme du premier ministre, était accompagnée par la femme du président de l'Assemblée et d'autres femmes du gouvernement.
Voilà.
Ils n'ont pas pris le devant, mais le fait qu'elles étaient là, nous devions quand même le montrer au monde entier.
Voilà, c'est vrai.
Parce que le manifeste a été donné à la première dame. Elle s'est engagée à être l'ambassadrice des femmes. Mmh. En quoi les gens ne sont pas occupés à comprendre ce qui se passe,
voilà.
comment nous tous, nous allons nous lever pour défendre notre Congo.
Voilà, nous allons donner la parole à Janine qui est à Goma. Elle a participé d'ailleurs à la marche mondiale qui vient d'avoir lieu aussi que vous. Il y a aussi Soupi qui nous appelle des Kalima dans le Maniema. Janine, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Nous parlons de la marche, pas tellement autour de ce qui s'est fait à la marche. Nous avons eu les résultats, mais notre problème ici, c'est au-delà où vous avez participé à la marche. Mais nous voudrions, en fait, pérenniser les soucis, la volonté de la marche pour enfin mettre fin aux violences. Qu'est-ce que vous proposez, eu égard à ce que vous avez vu à la marche, ce qu'il faut encore faire de plus pour mettre fin à cette situation que nous sommes en train de connaître à travers le pays, Janine?
Bon, je crois que l'étape de la marche, c'était un moment d'affirmation collective et la détermination des femmes congolaises à vivre dans des communautés de vie sans violence faite à la femme.
Mm-hmm.
Mais comme vous l'avez si bien dit, au-delà de la marche, nous devons nous inscrire tous dans une dynamique de travail pour que la problématique de la violence faite à la femme, qui en fait n'est pas une problématique liée à la femme seulement, c'est une problématique de société. Donc c'est tous ensemble, hommes, femmes, jeunes, vieux, gouvernants, société civile, en termes d'organisation, les églises, nous devons nous coaliser. Comment vous pouvez vous imaginer que la femme qui soit la charnière principale dans la société soit brimée, soit méprisée, et aujourd'hui avec tous les conflits que nous avons connus, elles sont encore celles qui ont été déstructurées dans leur être des femmes, avoir l'état de viol, avoir l'état d'abus, c'est celles que les femmes congolaises ont connues, nous disons, c'est toute la nation qui doit se lever et dire non. Ce n'est pas une affaire des femmes. Souvent, quand on aborde la question de la violence faite à la femme, il y a des personnes qui se plaisent à dire « Mais les femmes veulent exagérer, qu'est-ce que vous voulez encore ?» Mais on a fait « Non !» Ce que nous ne voulons pas exagérer, nous voulons rééquilibrer la dimension sociale de la société.
Mm-hmm.
Les femmes ne sont pas moins que les hommes dans une société. Et d'ailleurs, au Congo, les femmes ont prouvé noir sur blanc, qu'elles étaient capables de faire vivre. Je ne dis pas faire vivre. Les femmes congolaises ont tout mis dans leur poche, sur leur tête pour que la nation congolaise soit en équilibre. Toutes les années de crise que nous avons connues au Congo, c'était l'apport indéniable de la femme. Je crois que le Congo devait aujourd'hui disparaître. Quand on parle de la disparition, ce n'est pas en termes d'État qu'on devait nous effacer sur une carte géographique, mais les familles devaient disparaître, les enfants devaient mourir en cascade, les hommes qui en fait vivent dans les chômages jamais connus au monde sont là en train de faire des tournées de pouce, ce sont les femmes qui travaillent. Autant nous avons travaillé, autant nous avons contribué à maintenir l'équilibre pendant les années de crise, maintenant que nous allons nous inscrire dans une dimension de reconstruction de la refondation de la nation, la question de des femmes, donc la problématique des droits des femmes en fait, doit être remise sur table. Quand on dit sur table, ce n'est pas entre les mains des femmes. C'est sur la table des gouvernants, c'est sur la table de toute la société congolaise.
Mm-hmm.
C'est en fait la question du statut de la femme que nous devons aujourd'hui aborder avec beaucoup de sérieux. C'est que quand on parle des droits des femmes, ce n'est pas les femmes qui vont nécessairement au pouvoir. Ces femmes qui sont à Makobola, à Minembwe, à Uvira, à Mbujima, à l'Équateur, dans les bandes d'Indouoka. Donc partout là, quelle est la condition de la femme? Tant que la femme congolaise ne se relèvera pas, il est tout à fait difficile et illusoire de parler du développement de la nation. La femme, en fait, c'est celle qui est le pilier principal de toute communauté.
Voilà, Janine, vous dites qu'il faut l'implication de tout le monde, mais quand vous regardez aujourd'hui la manière dont l'engagement des, en fait, des, dans la lutte contre ces violences est fait, est-ce que vous vous rendez compte que les hommes qui sont les partenaires, qui sont à côté des femmes, est-ce que vous vous rendez compte que dans la société congolaise, les hommes sont assez impliqués? Est-ce qu'ils prennent cette question à cœur pour que, enfin, et ce sont même les auteurs de toutes ces violences, est-ce que vous vous rendez compte qu'ils sont vraiment actifs et très attachés à accompagner les femmes dans cette lutte?
Bon, je crois qu'il n'y a même pas un problème d'accompagnement, puisqu'on ne va pas accompagner les femmes dans la lutte. Nous devons tous être ensemble en train de lutter. Puisque quand j'ai commencé mon propos, je vous ai dit que la question des violences faites à la femme, ce n'est pas une question de la femme, c'est une question de toute la société. Et je crois que Mme Moulimouzi, qui est intervenue avant moi, a bien circonscrit les cas. Et quand elle dit, quand on viole la femme, en fait, c'est quand on la violence c'est déstructurer toute la nation. Ce n'est pas une question de femmes. Vous n'allez pas nous accompagner. Nous devons comprendre que la promotion des droits des femmes, c'est un enjeu pour le développement durable. Donc, hommes et femmes, nous devons nous inscrire dans cette dynamique. Mais je dirais encore plus loin. En fait, la lutte contre les violences faites à la femme en République démocratique du Congo n'est pas prise au sérieux. Quand je dis n'est pas prise au sérieux, que ce soit du côté des femmes,
oui, du côté des hommes.
Et du côté des hommes. Nous n'allons pas agir par procuration, mais nous devons aujourd'hui entrer dans nos communautés respectives, voilà, dans nos tribus respectives. Qu'est-ce qui se passe sur la condition de la femme? Qu'est-ce qui se passe quant à la promotion de la femme? Et quelles sont les véritables causes qui assujettissent les femmes? Et c'est en fait c'est sur les causes que nous devons travailler pour que demain nous parlions de la promotion des droits des femmes.
Merci
et
bien
enfin
bien.
Nous pouvons alors éclairer au développement durable en République démocratique du Congo.
Merci beaucoup, Madame Janine. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes à Goma et vous avez participé à la marche mondiale des femmes. Nous allons à Kalima dans le Maniema. Soufi, vous êtes en ligne. Bonjour. Soufi, vous êtes en ligne, bonjour. Apparemment, on a perdu la ligne de Soufi. Nous, voilà, c'est tout ça maintenant. Tout ça, vous êtes à Walikale, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, bonjour, monsieur le journaliste, bonjour.
Ah, voilà, on vous a mis en ligne, je pense, c'est le moment où Madame Janine de Goma, de là où vous êtes, est en train de parachever son propos, où elle pose le problème de la problématique des luttes contre les violences faites à la femme, les viols, et tous ces problèmes de la dignité de la femme. C'est pas seulement une affaire où les hommes vont croiser les bras en train de regarder les femmes se battre, mais c'est un problème de toute la société en général. Vous êtes un homme, est-ce que vous vous rendez compte que les hommes comme vous sont vraiment impliqués dans cette lutte contre les atrocités et les violences que les femmes sont en train de subir?
Oui, normalement, c'est ça. Nous luttons pour le cas des violences sexuelles ici à Walikale, mais l'insécurité est totale. Nos filles sont violées, nos mamans sont violées, nos pères sont violées. Mais est-ce qu'on ne peut pas tuer tous ces gens, l'État congolais puisse prendre le chef de l'État? Ne peut pas changer vraiment la loi pour que tous ces gens qui violent soient passés aux armes comme à l'époque l'auditorat faisait ça?
C'est-à-dire que vous pensez qu'il faudrait la peine de mort pour les auteurs de viols, c'est ça?
Mais oui, ils passent aux armes qu'on les tue publiquement devant les gens, puisque ces gens sont en train vraiment de casser nos serres, de tuer nos serres. Il y a des ex-mêlés qui font ça, les sécurité totale ici, il n'y a pas moyen.
Voilà, en tout cas, c'est très émouvant. On écoute ça vraiment à son sein, mais quand même, votre souci, c'est que il faudrait qu'on combatte l'insécurité, qu'on mette fin au phénomène FDLR. Ça peut permettre à mettre fin à cela, mais vous, votre souci, c'est une peine de mort, pour les auteurs de viol. Merci. À tout sein, vous êtes à Walikale aujourd'hui. Nous restons dans le secteur à Bukavu. C'est Aziza qui est en ligne. Aziza, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de suivre tout ça, c'est avec beaucoup d'émotion qu'il présente la situation, qu'il pense qu'il faut la sécurisation, comme l'a dit Madame Élise, il faut une sécurisation globale qui peut aussi aller dans une sécurisation sectorielle. Ça peut aider vraiment à protéger, à sécuriser la femme et surtout à lui rendre sa dignité. Aziza, on vous écoute. Vous êtes à Bukavu où la marche mondiale a eu lieu. Quel est votre point de vue?
Oui, mon point de vue, c'est vraiment que la paix revienne. Donc, les femmes du Sud Kivu, les femmes du monde entier ont demandé la paix. C'est-à-dire que tous les acteurs, tous ceux qui ont un mot à dire, tous ceux qui ont le pouvoir, qu'ils puissent tout mettre en œuvre pour d'abord arrêter l'action des groupes armés dans les provinces, dans nos villages, qu'ils puissent arrêter l'action des groupes armés et mettre fin à la guerre. Parce que nous avons trouvé que nous sommes en train de lutter contre les effets des violences, mais nous ne luttons pas contre la cause même. Et donc la cause, c'est la guerre. Si la guerre se termine et s'il y a la pacification de tous les coins de la RDC, les femmes congolaises peuvent travailler en paix et peuvent s'épanouir et continuer le développement du pays. Donc c'est ça mon point de vue. Et pour ça, il y a toute la problématique de l'impunité. Il faut mettre fin à l'impunité dans notre pays, dans la sous-région, dans partout où les violences se commettent. Et donc pouvoir mettre hors d'état de nuire. Moi, je n'irai pas loin comme monsieur mon prédécesseur a dit qu'il faut les tuer à la place publique, mais moi, je dirais qu'il faut les mettre hors d'état des murs, c'est-à-dire les arrêter définitivement pour que les femmes, quand elles vont au champ, qu'elles n'aient pas peur de rencontrer leur bourreau pour qu'elles subissent encore ces atrocités. Donc c'est ce que je peux dire.
Merci Aziza, vous êtes à Bukavu, vous avez participé d'ailleurs à la marche mondiale qui vient d'avoir lieu la semaine passée. Et nous rentrons à Kinshasa pour donner la parole à Michel avant de rejoindre Madame Élise Mouzi. Michel, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour Michel,
vous êtes à Kinshasa, c'est à autant de kilomètres de Bukavu, la marche a eu lieu, la problématique c'est des luttes contre les violences sexuelles, c'est une préoccupation de tout le monde, un problème de société vu l'ampleur qui prend cette question dans la société congolaise. Parce qu'on tend déjà vers la fin de l'émission, Michel, quelles sont vos propositions pour maintenir le cap et surtout mettre fin à cette vague de violences sexuelles qui connaissent le pays et permettre à et la femme puisse retrouver sa dignité. On vous écoute.
Oui, monsieur, je vous remercie d'abord pour la parole. Moi, je dis ceci. Le problème des violences faites aux femmes, ce n'est pas un problème politique. Parce que un problème politique, d'abord, c'est le politicien, je dirais, il néglige ce problème-là. Parce que la multiplicité des violences qui se font, c'est dû à la négligence politique, si je peux dire comme ça. Alors, moi, je dirais ceci. Pour mettre fin ou pour lutter contre les violences sexuelles, il faut mettre même une commission à faire. Créer des brigades, plutôt former des brigades pour lutter contre ces violences qui se font. La multiplicité, c'est dû toujours à la négligence politique. Si la politique, donc le gouvernement congolais, s'implique avec toute force, et donc les violences sexuelles n'auront pas lieu comme nous les voyons actuellement. Donc il faut mettre une commission en place. Pourquoi pas créer même un ministère des violences sexuelles. Donc il faut créer un ministère, à mon avis je dirais créer un ministère, soit une commission mettre en place pour combattre rapidement, parce que ça dure des longtemps.
Voilà, merci Michel. Vous pensez qu'il y a assez de négligence hein, du côté des politiques. La question n'est pas tellement prise en considération dans toute urgence et vous proposez la création d'un service spécialisé, comme l'a dit notre ami Georges de Kisangani, qui peut s'occuper de violences sexuelles. Merci Michel. On va redonner la parole à Madame Élise Mouimouzi tout de suite là après quelques secondes.
Parole aux auditeurs.
Et d'ailleurs, avant que Madame ne puisse s'exprimer, je voudrais lire le message de notre auditeur Philippe Akamituna qui nous a écrit je crois que le message est signé par Michel Ntumba et Fort Kabongo, journaliste de l'Agence congolaise des presse à Bandundu-Ville. Il dit ceci, d'abord il salue l'organisation de la marche, il est très content, il félicite les femmes pour cette mobilisation, c'est une grande réussite parce qu'il fallait que l'attention du monde entier soit tournée vers la province l'Est de la RTC où les atrocités sont commises, mais il donne comme piste de solution les renforcements des effectifs des magistrats, que ce soit en fait les officiers du ministère public et juges surtout, avoir aussi beaucoup de femmes les magistrats, et surtout à l'intérieur du pays. Ils pensent aussi qu'il faut créer des parquets et tribunaux secondaires à l'intérieur du pays, dans les territoires éloignés où il y a carence. C'est-à-dire que rapprocher davantage les justiciables de la justice. Et enfin, ils pensent que le secrétariat permanent du conseil de la magistrature doit se battre pour les moyens d'avoir assez de moyens financiers pour l'affectation des nouveaux magistrats et permettre à ce que les gens puissent travailler. Madame Élise Mouyoumouzi, nous vous donnons la parole encore une fois de plus. Le plaidoyer, il est grand, c'est ce qu'on peut faire dans cette émission, l'intervention des uns et des autres. Mais déjà, au niveau de la RDC, on a vu quand même qu'il y a des procès qui se sont tenus, que ce soit dans la région de l'Est et que ce soit dans d'autres provinces, hein, avec de peines pour les auteurs de viol. Mais je crois encore qu'il faut aller au-delà. Mais vous avez dit qu'ici, il y a une grande part de la communauté internationale. Mais dans tous les plaidoyers, dans tout ce que vous faites comme plaidoyer au niveau de la société civile, est-ce que vous rendez compte que la communauté internationale vous écoute et prend à cœur cette question pour l'implication de cette communauté, en ce qui concerne les groupes armés étrangers, et qu'enfin, qu'on mette fin à la situation? Est-ce que dans vos contacts, dans les travaux que vous faites, est-ce que la question est prise à cœur au niveau de la communauté internationale?
Oui, je pense que la communauté internationale est avec nous et elle sait très bien que les propos que nous lançons ici, en tout cas, la communauté internationale n'est pas innocente. Mmh. Et comme je l'ai rappelé au début, combien de pressions il y a eu sur le pays, après on a dit qu'il faut dialoguer, on fait le dialogue, parce que la guerre a éclaté, c'était une guerre de nationalité, finalement c'est une guerre de ressources, c'est vraiment une guerre d'agression, de dénominatif qui ne fait que changer. Mmh. Alors, dans ces conditions, on n'est pas seul. Et le pays est trop riche. Et je sais que les gens meurent. Les viols se passent. Parce que ce sont ces richesses du pays qu'il faut d'abord être pillées. Et la femme est pillée au même titre que toutes les autres richesses. Pour affaiblir l'État congolais, on travaille sur les piliers des institutions qui allaient faire sa force dans l'armée. Et de cette façon-là, il n'y a pas un autre moyen d'affaiblir un État et de pouvoir le contrôler aussi de cela. Bon, prenons un peu l'exemple de la République de Tanzanie. Cette République n'a jamais connu de guerre depuis l'indépendance parce qu'ils ne produisent que du poisson. Qui a besoin du poisson? Mais tout le monde a besoin de matières premières. Bientôt, nous sommes en train de travailler sur les produits du sous-sol. Mais bientôt, ça sera la forêt, ça sera l'eau, et encore nous serons attaqués. Est-ce qu'on se prépare à ça? Est-ce que nous nous préparons dans les termes de la globalisation pour dire que nous devons d'abord être nous, forts, une nation forte, pour pouvoir être à mesure d'affronter ceci? Mais lorsque les gens rentrent dans la globalisation, nous sommes encore dans le secteur des viols, des violences, des conflits, des guerres, etc. À quel moment nous allons nous organiser pour reconstruire le pays? On ne peut pas être sur une panoplie d'activités et d'actions, et à gauche, à droite, être tiraillé, parce que le concept que les autres créent pour nous, et dans lequel nous ne retrouvons pas. Donc, nous devons avoir une volonté nationale, patriote, pour se dire non, trop c'est trop. Nous, les femmes, nous avons dit trop c'est trop dans les domaines des viols, nous mettons debout. Nous demandons la solidarité des femmes sur le plan international pour voir avec les autres, les propres pays. Les femmes qui sont venues, parmi les femmes qui sont venues, il y avait des députés, il y avait des sénatrices, il y avait des femmes ministres. Nous avions même, nous attendions, elle a envoyé Joëlle Bicquet, qui est la vice-présidente, la vice-première ministre belge. Elle a promis de venir, mais au moment où l'événement se passe, elle est en pleine négociation en Belgique pour former le gouvernement. Elle a envoyé les délégués de son cabinet.
Madame Élise, permettez que les derniers auditeurs, c'est les tout derniers, dans une minute, donnent son point de vue. On vous redonne la parole pour clôturer et conclure cette émission. Céline, vous êtes en Bougenet, vous êtes en ligne, Céline, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes le dernier auditeur, juste dans 45 secondes, on vous écoute. Quelle est votre proposition, bien avant que nous puissions conclure l'émission?
Ma proposition est celle-ci. C'est le pouvoir public qui vient sécuriser cette histoire de violence sexuelle, puisque les femmes sont beaucoup violées à l'effectivement. C'est avec la présence des troupes étrangères qui sont venues dans notre pays pour nous livrer une guerre sans merci. Avec aussi certains éléments incontrôlés des forces armées et de la police nationale congolaise. C'est surtout à ce côté-là d'où viennent tous ces jeux que nous déplorons. Et dans les autres provinces, c'est quoi? Il faut aussi voir comment les filles sont en train de s'habiller. Les filles ont des habits très sexy. Avec ces histoires, ces comportements-là, poussent toujours aux violeurs de les prendre pour leur poids. Avec ça, je crois, nous pouvons éradiquer cette histoire de violence. Surtout à l'Est, le pouvoir doit mettre tous les moyens possibles pour encourager ces gens qui sont en train de se livrer à ces sales besoins-là.
Merci, Célie. Vous êtes le dernier auditeur. Madame Élise, on vous remet la parole dans une minute et demie, juste pour conclure cette émission et lancer le dernier message.
Ah, merci beaucoup. Je pense que les conseillers qui ont parlé dans l'émission, je pense à Janine Bungu, à Ziza, à Solange et à tous les frères qui ont aussi participé par les contributions, nous pensons qu'ensemble, nous allons créer une conscience nationale pour renforcer l'État congolais à régler les problèmes de sécurité, pour renforcer aussi la solidarité internationale à nous aider à avoir une sécurité globale dans la région et dans la RDC, en fait, que nous puissions réussir notre pays. Comme les femmes, nous allons mettre debout pour avoir d'abord ce qu'est de la nation congolaise et de travailler en sorte que le patriotisme congolais puisse revenir en place. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, merci Madame Élise Mouimouz pour avoir accepté notre invitation et de commenter ce sujet avec les auditeurs. À qui nous disons également merci. Je rappelle que vous êtes membre du comité d'organisation de la 3e édition de la Marche mondiale des femmes. Nous vous disons merci.
Merci.
Allô? Allô? Allô?
Il ne répond pas?
Et c'est la fin des paroles aux auditeurs pour ce mardi. On se retrouve avec vous demain mercredi à partir des 10h30 pour un nouveau numéro de l'émission consacrée à l'enseignement supérieur et universitaire. Vous savez, le samedi dernier ont eu lieu à travers le pays les cérémonies d'ouverture de l'année académique 2010-2011. Nous en parlons avec vous parce que vous savez que le ministre des Tutelles a pris des mesures portant fermeture de plusieurs établissements d'enseignement supérieur et universitaire à travers le pays parce qu'ils sont considérés non viables. Première question, quel état des lieux fait pour vous des universités et études supérieures dans votre milieu? Et la deuxième question, que faire pour améliorer les conditions d'études pendant cette nouvelle année académique? Soyez nombreux à réagir à pa@radiookapi.net. Nous disons merci à Marie-Chantal Lumba, Cynthia Bachidi, pour la réalisation de cette émission. Supervisée par Nicole Gaga, la mise en onde assurée par Dieudonné Nyangasa Toro et la mise, je vous dis merci, en vous souhaitant bien des bonnes choses en compagnie de Radio Okapi.